Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Le 20 janvier dernier, l'avocat Jean-Pierre Ménard lançait le site Vos droits en santé afin de mieux informer les citoyens de leurs droits en santé. Ça le dit bien. Et pour en savoir davantage sur cette initiative, on lui parle en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, une étude du Centre d'études sur le stress humain démontre que révéler son orientation sexuelle est bénéfique pour la santé mentale. Et l'étude a comme titre « Stress et orientation sexuelle, sortir du placard, c'est bon pour la santé ». Je pense que c'était un sujet tout à fait approprié pour moi. Et je m'entretiens avec l'auteur principal de cette étude, Robert-Paul Juster, chercheur en neurosciences à l'Université McGill et doctorant au Centre d'études sur le stress humain. Bonjour Robert-Paul.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé.
Oui, merci pour l'invitation.
Donc, une étude qui est parue il y a à peu près un an. Cette étude qui, à la base, le départ, le souhait, le premier, était de comparer la santé mentale et physique des gens qui sont gays, lesbiennes, bisexuels et des hétérosexuels. Pourquoi cet intérêt-là au départ?
C'est un intérêt qui a commencé même avant que j'ai commencé ma maîtrise avec Dr. Sonia Lupien. Puis c'était simple, on voulait tout simplement voir est-ce qu'il y a des différences en niveau de stress biologique, donc avec des hormones, puis la santé mentale chez les minorités sexuelles. C'est une étude qui n'a jamais été faite, puis on a dit on va le faire. Donc c'était vraiment ça à la base, de voir est-ce qu'il y a des différences en termes de stress biologique, puis... la santé mentale.
Et l'étude a démontré que les gays, lesbiennes et bisexuels qui affichent ouvertement leur orientation sexuelle démontrent un taux de stress moins élevé, des symptômes d'anxiété également et d'anxiété moins élevée, moins d'épuisement, sont moins sujets à l'épuisement professionnel. Et à quelque part, je me disais, Robert-Paul, ben, c'est pas si étonnant, parce que souvent, quand on sort du placard, justement, j'imagine, il y a moins de pression, on est plus à l'aise avec nos proches. Est-ce que c'est des résultats qui vous ont étonné?
Pas vraiment. Qu'est-ce qui nous a étonné, c'était plus qu'il y avait des différences entre les minorités sexuelles hommes et les hommes hétérosexuels. On s'attendait pas qu'il y aurait une santé mentale plus forte chez les hommes gays, bisexuels. Mais ça s'expliquait parce que la majorité du monde qui s'est impliqué dans notre étude avait sorti du placard complètement.
Ouais.
C'est peut-être aussi le fait d'être un échantillon qui vient de Montréal. Puis aussi, le monde qui va aller à notre hôpital puis investir à une étude qui était quand même demandant, c'est du monde qui s'affiche, qui sont assez confortables avec eux-mêmes. Donc, c'était pas un résultat très surprenant que... le monde qui avait sorti du placard était en meilleure santé, mais je pense que c'est un message d'espoir pour le monde qui l'ont peut-être pas fait encore.
Mais ce qui était étonnant, comme vous le dites, c'est la différence entre ces gays, lesbiennes, bisexuels sortis du placard et des hommes hétérosexuels. Là, il y avait une nuance. Pour peut-être mieux situer les gens, comment s'est déroulée justement cette étude-là?
Donc, on a eu 87 participants qui ont participé. C'est quand même un petit échantillon, mais c'est en neurosciences, on prend vraiment beaucoup, beaucoup de mesures. Donc, le monde allait à notre laboratoire, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Puis, on les a demandé de compléter des échantillons de salive pour regarder les niveaux de l'hormone de stress, le cortisol. On les a subis à un stresseur aussi pour voir comment ils réagissaient. On leur demandait de compléter plein de questionnaires. Puis aussi, on leur demandait pour une prise de sang. Donc, à la base de tout ça, ils ont craché, salivé... puis saigner pour la science. Puis après ça, on met tout ça ensemble pour essayer de comprendre des profils biologiques, des profils psychologiques.
Il y avait un questionnaire aussi.
Ah oui, on avait beaucoup.
Ouais. Quel type de questions on pouvait leur demander?
C'était tous des questionnaires validés pour regarder un peu la santé mentale, donc les symptômes de dépression, des symptômes d'épuisement professionnel, des symptômes d'anxiété, des questionnaires sur leur orientation sexuelle. C'est souvent des questionnaires sur une échelle de genre 1 à 5. Puis notre logique d'utiliser des questionnaires et aussi des biomarqueurs, donc c'est vraiment d'essayer de de mettre tout ça ensemble pour voir est-ce qu'il y a des effets à un niveau biologique, mais aussi à un niveau psychologique avec les questionnaires.
Mm-hmm. Le cortisol, le fameux cortisol, on en parle de plus en plus parce qu'on sait que avec votre équipe, avec Sonia Lupien, avec le Centre de santé sur le stress humain, là, c'est vraiment avant-gardiste et ça un petit peu partout dans le monde là, sur les recherches sur le stress. Donc, le cortisol, on en entend parler de plus en plus, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, ça signifie quoi? C'est quoi les effets sur la santé des gens?
Donc, dans une situation menaçante, on va produire du cortisol. Puis le cortisol, essentiellement, c'est une hormone qui est sécrétée par les surrénales. Ça circule un peu partout dans le corps, puis ça transforme le gras en sucre pour donner l'énergie à notre corps. Mais en faisant ça, ça va diminuer d'autres systèmes qui sont peut-être pas nécessaires. Donc, le système de reproduction, notre système immunitaire, c'est une molécule très, très, très puissant. Puis la raison pour laquelle on a demandé de prendre une prise de sang, puis aussi on a même fait des échantillons d'urine pour regarder l'adrénaline, qui est une autre hormone de stress. C'est, l'idée derrière ça, c'est que le cortisol va moduler beaucoup de systèmes qui va faire en sorte que la personne aura plus de problèmes peut-être cardiovasculaires ou des problèmes de cholestérol. Parce qu'à la base, le cortisol est produit par le cholestérol.
Et Robert-Paul, est-ce que l'on sait, est-ce que vous avez réussi à détecter ou peut-être à identifier pourquoi les hommes hétérosexuels présentaient plus de signaux dépressifs que les hommes gays?
Je pense que ça, c'est un effet de notre échantillon en particulier.
Okay.
Parce que la majorité du monde, les hommes gays et bisexuels, avaient sorti du placard. Donc, quand on comparait les minorités sexuelles aux hétérosexuels, il semblait que les minorités sexuelles étaient en meilleure santé, mais c'est parce qu'à l'intérieur des minorités sexuelles, ceux qui ont complètement sorti du placard comparativement à ceux qui l'ont peut-être pas complété, peut-être qu'ils n'ont pas dit à leurs parents, c'était là qu'il y avait cette nuance. Donc, je pense que c'est très important que... je pense qu'il y a un message d'espoir, mais il faut faire très attention. C'est basé à Montréal. On va quelque part d'autre autour du monde, puis ça risque de pas être le même résultat. Puis je serais étonné de même avoir des participants participer à notre étude.
Ouais.
Donc, il faut faire un peu attention avant de dire que c'est tout le monde sort du placard, parce que c'est sûr qu'il y a certaines situations qui vont faire en sorte que c'est peut-être même endommageant pour la survie de la personne.
Oui. Est-ce que vous avez reçu à cette étude-là que des hommes, Robert-Paul?
Non, c'était les hommes et les femmes, presque égales.
OK. Et est-ce qu'on a pu voir une différence entre les femmes gays et les hommes gays?
Ça, c'est une bonne question, puis en effet, non. Et puis c'est là que... On s'intéresse beaucoup à comprendre les différences entre les hommes et les femmes.
Oui.
Mais à l'intérieur de ces différences-là, on trouve des différences de genre. Donc, le sexe, c'est vraiment tout qui est biologique, or que tout qui est le genre, c'est vraiment des aspects sociaux puis des différences culturelles. Puis l'orientation sexuelle fit un peu avec le genre. Puis on s'est dit, on va regarder les minorités sexuelles, les lesbiennes puis les hommes gays. Puis il n'y avait pas de différence. C'était vraiment juste l'intérieur des sexes. Donc, les femmes lesbiennes comparativement à des femmes hétéros ou des hommes gays comparés à des hommes hétéros. C'est là qu'on voyait les différences.
Mm-hmm. Il y a quelque chose aussi qui a été révélé, qui était très, très, très intéressant à travers cette étude-là, à mon sens, c'est que peut-être les gens gays, lesbiennes, bisexuels qui ont réussi à sortir du placard, qui ont en fait eu ce désir-là de le faire, ont mis des stratégies dans leur vie, dans leur quotidien, parce qu'ils ont eu à être stigmatisés dans leur vie. Donc, ils réagissent mieux au stress parce qu'ils ont été parfois peut-être un peu confrontés à des situations difficiles.
Exactement. Puis ça, c'est vraiment le concept de la résilience. Donc, d'avoir subi des stresseurs puis être capable d'adapter. Puis en effet, on a une étude qui vient juste de sortir cette semaine qui est basée sur le même échantillon. Puis on a trouvé que les stratégies d'adaptation, donc qu'est-ce qu'on appelle en anglais les coping strategies, étaient reliées aussi à la santé. Donc pour les minorités sexuelles qui utilisaient l'évitement pendant leur coming out ou leur révélation, avaient plus de stress actuel. Or que ceux qui cherchaient du soutien social pendant cette période-là, avaient une meilleure leur niveau de stress était plus bas actuellement.
Mm-hmm. Et ça, c'est fascinant parce que ça révèle aussi d'autres causes liées au stress peut-être ou d'autres façons de le combattre à quelque part.
Exactement. Puis je pense aussi que c'est vraiment important de réaliser que chaque population va avoir des stresseurs différents. Donc, on se demande, à la base, est-ce que les minorités sexuelles ont du stress différent que les hétérosexuels? Puis je pense que la raison, c'est oui, tu sais, d'avoir besoin de accepter puis commencer de faire la révélation aux autres. C'est toute une période de stress qui est très stressante. Puis la recherche psychologique démontre que c'est vraiment la période la plus stressante pour les minorités sexuelles. Mm-hmm. Puis ça augmente beaucoup les risques pour des symptômes psychiatriques, puis des abus d'alcool, puis de drogue. Donc, d'être capable de réussir, trouver des bonnes stratégies, avoir un soutien social, puis le faire, on pense que ça fait en sorte que le monde soit plus résilient après l'avoir fait.
Et la résilience serait une stratégie pour lutter contre le stress.
Exact.
Oui. Il
faut avoir un peu de stress pour être résilient. On parle souvent de...
Ben oui, aussi,
ouais.
Vice-versa, donc.
Oui. Oui. Donc, on peut pas faire de l'exercice pour être plus résilient, mais ça va aider à gérer notre réponse de stress.
Mm-hmm. Est-ce que les participants à l'étude, Robert Paul, vous ont dit ce que ce coming out, cette sortie du placard-là, avait changé dans leur santé mentale, dans leur rapport aux autres également?
Malheureusement, non. Puis ça, c'est où il y a la différence entre la recherche qualitative puis la recherche quantitative. Puis nous, c'est vraiment quantitatif. On a besoin d'avoir une mesure sur toutes nos affaires. C'est toujours des questionnaires. On n'a pas eu vraiment la chance d'avoir des entrevues avec les participants pour leur demander comment ça est arrivé. Je pense que c'est quelque chose pour l'avenir avec des chercheurs qui font plus des entrevues pour essayer de comprendre un peu.
Est-ce que c'est dans les objectifs du Centre d'études sur le stress humain d'aller plus loin?
C'est dans mon projet parce que je termine mon doctorat très bientôt. Puis c'est une ligne de recherche que j'aimerais appliquer aux États-Unis. Puis je veux prendre un peu la même méthodologie puis essayer de comprendre au niveau des États. Chaque des États qui ont des lois qui protègent les minorités sexuelles, le mariage gay, c'est tout le bordel en Amérique du Nord. Puis j'aimerais essayer de comprendre ça État par État pour voir si les minorités sexuelles, leur santé est différente que les hétéros.
Mm-hmm. Puis ça va en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que être gay à Montréal n'est pas la même chose qu'ailleurs dans le monde.
Exactement.
Oui. En quoi ces résultats-là liés à cette étude révèlent quelque chose de positif lié à l'acceptation de soi, par exemple au bien-être personnel?
Je pense que le message vraiment qui ressort de cette étude-là, c'est que premièrement, il faut comprendre le stress des minorités sexuelles. C'est une population qui n'a pas été étudiée assez. Puis c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait. Mais je pense qu'à la fin de ça, il faut essayer de comprendre les expériences dans la vie de la personne. Puis être capable de voir c'est quoi des événements qui peuvent les aider avec la transition. Puis je pense que le message à la fin de tout ça, c'est que pour notre échantillon, d'avoir sorti du placard, d'avoir eu du soutien social pendant le coming out était relié à une meilleure santé mentale actuelle.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est un message d'espoir pour le monde qui peut-être se trouve tout seul ou a la difficulté.
Isolé, oui. Est-ce que l'on sait si certains participants qui auraient eu une sortie du placard plus difficile auraient eu des réactions différentes au stress, donc des effets différents à leur santé mentale?
On pense que oui, mais on a besoin d'y regarder un peu plus.
Oui.
C'est quand même des résultats préliminaires. Puis on veut essayer de comprendre un peu plus tout le processus du coming out. On est basé sur un questionnaire qu'on a créé nous-mêmes. Puis on aimerait essayer d'aller un peu plus loin avec des entrevues puis de comprendre d'autres aspects de la santé mentale de l'individu.
Je vous cite Robert Paul Juster, « Sortir du placard ne devrait plus être une question de débat populaire, mais bien de santé publique. » Ce que vous vouliez dire à travers ça?
Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que on parle souvent de la santé mentale des minorités sexuelles, puis souvent tout qui est relié au mariage gay, particulièrement aux États-Unis, comme un débat populaire. C'est beaucoup de religion puis de politique qui rentrent.
On est pour ou on est contre, hein, souvent, puis souvent. Ça s'arrête là.
Souvent, puis... Je pense que ces résultats démontrent que, regarde, ça a un effet sur la santé de cette population-là. Donc, d'y penser, de donner des droits ou non, c'est pas un débat populaire, c'est une question de santé publique.
Mm-hmm.
Puis, il y a environ 4 ans, les États-Unis s'est vraiment investi à commencer à regarder la santé des minorités sexuelles, aussi les bisexuels puis les transgenres en particulier, parce que c'est une minorité à l'intérieur d'une minorité qui n'ont pas encore les mêmes droits. Puis je pense que basé sur nos résultats, avec un échantillon qui vient de Montréal, puis au Québec, ça, on a eu beaucoup plus de progrès vis-à-vis ça en Amérique du Nord. On était la première place en Amérique du Nord pour avoir des droits.
Mm-hmm.
C'est ça que je voulais dire avec ce commentaire-là.
Oui.
C'est quelque chose aussi en science, on essaie de sortir des commentaires forts pour...
Ben, attirer aussi le grand public, mais la communauté scientifique à s'intéresser à votre étude.
En effet.
Ouais. Et ça, c'est intéressant de le mentionner. Vous avez exclu volontairement, j'imagine, la communauté transgenre à cette étude-là parce que les réalités sont bien différentes.
En effet, puis la raison principale, c'est encore parce qu'on mesure le cortisol, puis on mesure aussi la testostérone, puis l'estrogène, puis la progestérone, qui sont des hormones sexuelles. Puis chez les transgenres, il y a souvent des changements qui se font avec la transition médicale. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on les a exclus. Mais je suis heureux que j'avais pas besoin de le faire parce qu'il y en avait pas qui nous a contactés.
Okay.
Mais c'est une étude, c'est une population que je commence à regarder avec des collaborateurs en Amérique, aux États-Unis.
Mmh, et l'approche est différente.
Oui.
Oui. Et rapidement, Robert-Paul, il y a une autre étude qui est à la veille de sortir également, qui vient peut-être un petit peu compléter ces propos-là, mais qui n'est pas encore publiée. Vous pouvez nous en parler un peu?
En effet, il est publié. On va avoir un communiqué de presse qui va sortir.
Ah bon, on va l'attendre.
Non, en effet, on peut en discuter. C'est une étude avec le même échantillon. On voulait voir la réactivité au stress. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner des détails comment on stresse le monde, mais je veux juste vous dire que le monde se stresse. Puis on collectionne leur salive à plusieurs moments pour essayer de regarder le cortisol. Puis c'est la tâche qu'on utilise. Généralement, les hommes réagissent plus fort que les femmes.
Okay.
Mais les femmes, sur des questionnaires, vont dire qu'elles sont plus stressées. Donc déjà, on voit une différence de sexe.
Mm-hmm.
Puis nous, on s'est dit, garde, on veut être capable de comprendre l'orientation sexuelle. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les hommes gays bisexuels avaient pas de réactivité comparativement aux hommes hétérosexuels. Or que chez les femmes lesbiennes avaient une réactivité plus forte en termes de cortisol que les femmes hétérosexuelles. Quand on a comparé les femmes hétérosexuelles aux hommes hétérosexuels, il y avait une différence significative, les hommes réagissaient plus fort, mais cette différence-là n'était pas là pour les minorités sexuelles.
OK.
Ouais.
Quand on dit réagissait plus fort, ça veut dire était plus stressé?
Exactement.
OK. Donc, les hommes seraient plus stressés que les femmes, si on veut conclure quelque chose un peu rapidement.
En termes de nos résultats pour cette tâche-là.
OK.
Alors, mais il y a d'autres stresseurs, par exemple le rejet social, où les femmes sont un peu plus sensibles que les hommes. Mais c'est très intéressant que les hommes gays, bisexuels, réagissaient un peu plus semblables à les femmes hétérosexuelles, alors que les femmes lesbiennes puis bisexuelles réagissaient un peu plus semblablement aux hommes hétéros. Puis on contrôlait pour la testostérone chez les hommes, puis l'estrogène, puis les progestérones chez les femmes. On a contrôlé pour le monde qui avait sorti du placard ou non, ou qui était hétéro,
mm-hmm.
l'estime de soi, puis aussi l'âge. Donc c'était quand même un résultat très fort, publié dans un très bon journal, avec des applications, je pense, pour la psychiatrie, pour cette ligne de recherche,
ouais.
de dire, regarde, on prend en compte le sexe de la personne, mais leur orientation sexuelle serait quelque chose d'important de mesurer aussi.
Oui. Et après, ce qu'il y a de fascinant et de merveilleux avec le résultat de ces études-là, c'est qu'on peut mettre des stratégies de prévention. Justement, on parlait d'épuisement professionnel tout à l'heure ou de dépression. En connaissant différents paramètres, eh bien, on peut mieux agir et prévenir.
Exactement. Puis ça, c'est le but vraiment de l'étude, les études qu'on fait au Centre d'études au stress humain, c'est de prendre des questionnaires, donc tout qui est psychologique, tout qui est social, puis aussi la bio, puis de mettre ensemble mm-hmm. pour être capable d'avoir un profil de l'individu.
Alors, pour en savoir davantage, on peut aller au www.stresshumain.ca. C'est le site du Centre d'études sur le stress humain. Est-ce qu'on peut consulter les études ailleurs, Robert-Paul?
Si vous allez sur notre site web, il va y avoir de l'information. Puis pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études qui existent. On est vraiment...
Vous êtes un chef de file, ça. Oui, oui.
Oh, ouais.
Oui. On...
Mais je collabore avec du monde qui fait des études semblables. Puis notre revue, le Mammouth Magazine, oui. La prochaine édition qui va sortir peut-être dans le printemps ou l'été, va être sur la santé des minorités sexuelles puis le stress.
Je rappelle, vous êtes chercheur en neurosciences à l'Université McGill, doctorant au Centre d'études sur le stress humain qui est affilié au Centre universitaire en santé mentale de Montréal. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Maître Jean-Pierre Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé le 20 janvier dernier « Oui, vos droits en santé », qui est une nouvelle ressource juridique gratuite en ligne. C'est un site qui a nécessité 15 années de travail à peu près.
Oui.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez visionnaire parce que là, justement, on a les deux pieds dedans, ce projet de loi là, qui tend à faire de grandes modifications sur notre système de santé et qui pourrait amener beaucoup de confusion auprès du grand public. Est-ce que vous aviez déjà peut-être anticipé ça?
Non, c'est clair que là, 5 ans, on ne l'avait pas pensé. Surtout que ça se passerait comme ça. On s'était pensé qu'on avait un moment... particulièrement important pour mettre en ligne le site de même parce que actuellement les grands projets de loi qui se discutent, ils discutent au-dessus de la tête des citoyens.
Mm-hmm.
C'est difficile pour les citoyens de s'y retrouver. Pardon, d'abord de se retrouver dans le réseau tel qu'il va être. D'abord, c'est déjà difficile dans le réseau tel qu'il est. Donc, ça va être encore plus difficile dans celui qui va être. Puis évidemment, pour toute la question de l'accès aux soins médicaux et tout ça, là, c'est complexe. Alors, on a donc voulu permettre aux citoyens d'avoir une source où ils vont pouvoir peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis mieux mesurer l'impact, parce qu'on va commenter l'actualité. Là, on va mettre en ligne lundi notre analyse du projet de loi 20. Alors, donc, ça va permettre aussi donc aux gens de mieux saisir qu'est-ce qui se passe, puis aussi peut-être idéalement d'intervenir aussi.
Mm-hmm. À qui s'adresse le site?
Le site s'adresse à l'ensemble de la population du Québec qui a affaire avec le système de santé, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Parce que tôt ou tard, on est tous d'actuels ou de futurs usagers du système de santé. Alors, c'est difficile quand on va dans le système de santé, d'abord, de se retrouver, de savoir, d'avoir l'information qu'on a besoin, de savoir comment faire pour l'obtenir. Puis une fois qu'on l'a, de bien comprendre qui décide de quoi. Alors, le thème du site, c'est pour mieux contrôler sa vie, sa santé, et bien connaître ses droits. Parce que si vous connaissez bien vos droits, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle sur les décisions qui vous concernent ou qui concernent vos proches quand c'est vous qui êtes appelé à les prendre.
Ouais.
On essaie de faire un peu ce qu'on pourrait appeler de l'empowerment, si on veut redonner du pouvoir aux citoyens de se réapproprier l'ensemble des décisions qui doivent être prises à leur égard dans le système de santé.
Et parce que l'information, c'est le pouvoir, vous le dites vous-même.
On dit, ben, effectivement, c'est ça, écoutez, puis c'est le pouvoir de décider aussi, puis de décider en pleine connaissance de cause aussi. Notre vie, notre santé, c'est peut-être notre richesse la plus extraordinaire qu'on a. Il faut être capable d'administrer le mieux possible aussi. Alors ça, on voulait faire une contribution pour ça.
Oui. Et le site s'adresse aussi aux professionnels de la santé parce que, d'après vous, dans les écoles, on ne parle pas beaucoup de ça aux futurs médecins.
Ce qui est malheureux, c'est que la formation sur les droits des citoyens, c'est la peau de chagrin dans tous les programmes de formation, médecins, infirmières, autres professionnels. Et les gens ont peu accès à ça. Pourtant, tous les jours, on gère les droits des patients. On gère ses responsabilités aussi. Alors, c'est clair que cette source de renseignement-là peut être extrêmement utile aux professionnels aussi, qui se demandent jusqu'où je dois informer mon patient. Mon patient me demande d'accès à son dossier. Est-ce que c'est correct? À quoi je peux y donner accès? etc. Mais voilà, c'est plein de choses utiles pour des professionnels aussi, pour mieux respecter les droits de leurs patients.
Ouais. Et plein de thèmes extrêmement pertinents, l'aide médicale à mourir, l'accouchement, l'avortement, les soins en santé mentale et bien d'autres, là, le refus au traitement. Vous êtes allé avec la demande du grand public, Maître Ménard?
Écoutez, ça fait des années. Écoutez, nous, on ne présente que les patients. Moi, ça fait 35 ans que je fais ça. Et, on a constamment beaucoup d'appels de gens qui nous demandent des fois des renseignements assez simples. Mais on dit, comment ça se fait que les réponses à ça ne sont pas facilement accessibles? T'sais, les gens nous appellent, comment je travaille avec ça à mon dossier puis ils m'ont refusé. Mais comment ça se fait que les gens sont aussi peu renseignés sur le droit par rapport à l'accès de leur dossier? C'est ça. Alors, donc, on s'est dit, on a fait le tour un peu des principales réponses. Puis on s'est dit, écoutez, c'est bien qu'on développe ici. Puis finalement, on s'est décidé à faire un développement le plus large possible pour essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Puis là, ça fait une semaine que c'était en ligne, on a eu une réponse d'abord absolument extraordinaire, un accueil extraordinaire. Puis écoutez, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand les gens nous appellent et disent, ben j'ai trouvé mes réponses, j'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, le but du site, c'est ça, puis on veut le faire vivre et le développer. Donc, si les gens ont des questions, des questionnements, si ça ne répond pas bien à tout ce qu'ils devraient répondre, bien, écoutez, que les gens nous le fassent savoir. Il y a une adresse courriel sur le site. Alors, les gens se sentent bien à l'aise de nous faire part de leurs commentaires aussi.
Mm-hmm. Et c'est important de souligner aussi que c'est complètement indépendant. C'est de l'information qui est impartiale complètement.
Tout à fait. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment communiquer aux citoyens des informations suffisamment précises pour que les gens puissent effectivement d'abord, exercer le droit dans le système de santé. Par exemple, l'accès au dossier, on vous explique c'est quoi d'abord à quoi vous avez droit, comment faire pour y avoir accès. Puis si on vous le refuse, voici ce que vous pouvez faire. Alors, on pense comme ça que ça devrait permettre aux gens d'exercer beaucoup plus efficacement leurs droits. Nous, c'est pas fait pour se recruter de clientèle du tout. On est déjà bien servi, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, peu importe, là. Puis, écoutez, nous, on sera toujours là pour les problèmes complexes, là, ou quand l'enjeu est important ou plus grave. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'en première ligne, les gens puissent se retrouver dans le système puis puissent sachent comment, effectivement, là, garder le contrôle sur la situation.
Et en terminant, peut-être aussi que le système s'adapte davantage à ses usagers et non le contraire.
Bien, écoutez, c'est toute la philosophie de base de la loi, mais la pratique va exactement à l'effet contraire. Alors, on dit que la raison d'être du système, c'est la personne qui acquiert les services, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on tente d'adapter des usagers au système. Alors, il faut résister à ça. Ce système-là, il appartient aux citoyens. Un système qui est public, il faut qu'il soit transparent, performant. Il faut que les gens se sentent à l'aise d'y aller lorsqu'ils n'auront pas le choix d'y aller.
Vos droits en santé, un site qui donne de l'information bien vulgarisée, nette et précise aux citoyens. Merci de le faire, Maître Jean-Pierre Ménard, www.vosdroitsensante.com. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Alors, merci. Plaisir.
Au revoir. Ben, c'était Marianne Paquette au micro, Rémi Hermoso à la console. Je vous rappelle, on est en rediffusion à 17h et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. On est présent là. 1-800-361-0635, poste 220 pour nous joindre par téléphone. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la dernière. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.